Tadaima.
Je t'ai dit que je pitais rien au japonais ou pas ?
Ça va, je suis rentré. Hey, mais dis donc, ça sent vachement bon par ici. Qu'est-ce que tu nous prépares ?
Écoute, je t'ai préparé un délicieux ragoût avec carottes, patates douces, butternut et une petite touche d'ail pour relever. Mais c'est quoi ton problème ?
T'as mis plein de légumes et pas de viande ?
Tu te plains beaucoup pour quelqu'un qui bouffe gratos. T'as qu'à te dire que c'est équilibré.
Braka braka ! Je vais avoir des carences en protéines avec tes conneries.
Si tu continues à manger n'importe quoi, ne viens pas te plaindre quand tes robes de soubrette te boudineront.
Quoi ? N'importe quoi ! J'ai acheté une jupe et un tailleur cet après-midi et j'ai pas changé de taille.
Autrement dit, t'as encore trouvé un moyen de gaspiller ton argent. Allez, arrête de râler et viens manger. Ton assiette est prête.
Itadakimasu !
Ouais, si tu veux.
Le samouraï et la soubrette. Épisode 12. Toradora.
Bienvenue dans ce 12e épisode du podcast Le Samouraï et la Soubrette, consacré aujourd'hui à Toradora, une série du studio JC Staff diffusée entre octobre 2008 et mars 2009 au Japon. Elle comporte 25 épisodes, ainsi qu'un OAV et 4 omake, donc des mini-épisodes de 1 ou 2 minutes, dont nous ne parlerons pas vu que nous ne les avons pas visionnés. À noter que c'est la première œuvre que nous traitons qui n'a pas bénéficié d'EVF, et qu'elle est actuellement uniquement disponible sur Netflix. On ne dispose d'aucune version physique en France. Le synopsis, donc, c'est Ryuji, un lycéen au bon fond mais qui impressionne à cause de sa tête de délinquant, se retrouve dans la même classe que Taiga Aizaka. Aizaka ou Aizawa ?
Aizaka.
Aizaka, c'est dingue. Tu me l'as dit plusieurs fois, mais...
Bon. Aizaka Taiga.
Ouais. Donc c'est une teen qui est aussi petite qu'agressive et par un concours de circonstances, ils vont se rendre compte que chacun est amoureux du meilleur ami de l'autre et ils vont décider de s'entraider pour atteindre leurs objectifs.
Exactement.
Jean, est-ce que tu peux d'abord nous dire comment t'as découvert cette série ?
Ouais,
c'est une question
série...
intéressée.
Ouais, c'est ça. Cette série, bah, c'est un des animés dont tu m'avais parlé à une occasion. J'avais commencé à regarder donc quelques épisodes à la maison. Ça m'avait plutôt plu. Du coup, on avait regardé un petit peu aussi chez toi. Donc, c'était la première et pour l'instant dernière soirée où j'avais été chez toi. Donc, c'était aussi un petit événement. Première soirée chez Xavier avec le petit rosé Pépouze. Et donc, ouais, je me suis assez vite rendu compte que la série allait me plaire par ses aspects comédie-romance. Et ce à quoi je m'attendais pas, en fait, c'est qu'elle me plaise autant.
Ouais. Ben, honnêtement, moi, je suis content qu'il y ait une série que je t'ai conseillée qui t'ait autant plu. Moi, perso, elle faisait partie de mon starter pack de je recommence à regarder des animés, il y a quoi qu'on me recommande, et puis il y avait Toradora dedans. Donc voilà, et c'est une des premières que j'ai revues quand j'ai commencé, quand je me suis dit, tiens, et si on replongeait dedans ? On va commencer par analyser la partie visuelle. Jean, je te laisse commencer.
Ouais, du coup on est dans la bonne tranche des petites entre guillemets séries animées parce que c'est pas non plus le haut du panier en termes de technique. C'est à mettre en relation avec des notions de budget puis aussi l'année de sortie de la série. Actuellement en France, du coup, c'est une exclusivité Netflix. Donc bon, bah voilà, c'est du Netflix, la compression est quand même un petit peu visible, il y a quand même des zones un peu baveuses voire floues par endroit à l'image, et le color branding est présent en particulier sur certaines textures nuances. Bon, c'est quand même, ça se regarde bien, mais bon, faut savoir qu'en termes d'offres légales en France, niveau qualité, c'est pas non plus ouf quoi, on n'a pas beaucoup de choix.
Je trouve que la série, elle a bien vieilli, hein. Elle a une technique tout à fait correcte, une animation assez fluide et globalement, il n'y a rien de choquant par rapport au standard actuel. Il y a même, je peux citer, un petit paquet de séries qui sont sorties très récemment et qui sont moins bien animées, moins bien traitées que Toradora. Je trouve que la direction artistique, elle est relativement classique, hein, voire banale, hein. C'est une série lycéenne, comme on a vu... vraiment beaucoup, en termes visuellement parlant en tout cas, mais la DA suffit à servir le propos de la série et honnêtement c'est tout ce qu'on lui demande. Côté audio, il y a, selon moi, un ou deux thèmes qui reviennent régulièrement, notamment des thèmes piano, mais honnêtement, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Il me semble que, Jean, toi, ce n'était pas ton cas.
Ah, j'allais dire, pourquoi tu me regardes en disant piano? Tu fais des associations dans ton réseau neuronal. moi, l'OST, en général, je le trouve bon, il est bien utilisé. Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de pistes emblématiques, mais bon, il y en a quand même quelques-unes qui sont loin de compter pour un demi. Au hasard, Lost My Pieces, qui, bon, bah, si le tarot corps était une musique, je pense que ça ressemblerait un petit peu à ça. Il y a aussi quand même des musiques qui sont utilisées avec le bon timing pour justement les moments un peu tarot coresques, donc enfin, bon, tous les moments de romance un peu touchante, voire très touchante. Les musiques sont calées au bon endroit et du coup moi perso je trouve que ça fait toujours mouche. Mais finalement je pense qu'on a plus de choses à dire sur les génériques d'ouverture et de clôture de l'animé.
Oui, clairement, moi j'ai beaucoup aimé le premier opening, je l'aime d'ailleurs toujours beaucoup, avec sa musique très espiègle, son phrasé particulier qui...
À la rap god.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est un phrasé vraiment très rapide où honnêtement il n'y a quasiment que les Japonais qui osent faire ça à des idoles, hein, soyons clairs. Et surtout, visuellement... Il y a une composition, je trouve, qui est assez sympathique et avec en même temps que le titre apparaît, les personnages où on montre leur caractère juste à leur manière de marcher. Je trouve ça vraiment très 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 sympa et c'est pas souvent qu'on a ce genre de bonnes idées dans les openings.
Ouais, je vois ce que tu dis. Ouais, c'est vrai que chaque personnage a sa démarche, c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est pas un traitement qui, en tout cas, une réflexion qui est pas forcément toujours faite quand ils élaborent les génériques d'ouverture. Moi, j'aime bien aussi, donc j'aime bien cet opening pour toutes ces raisons. J'aime bien le premier ending aussi. En termes de musique et de chansons, c'est plutôt classique, mais il est aussi plus mélodieux. Donc, bon, forcément, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Il y a à nouveau, chaque personnage a sa démarche, c'est le cas dans le premier ending aussi, ils ont repris un petit peu ce concept, c'est sympa. Après sur la mi-saison, en fait on passe à un autre générique d'ouverture et de fermeture. Le deuxième opening, il est très entraînant, du coup si je devais choisir entre les deux, j'aurais une légère préférence pour le deuxième OP. Il met aussi en scène de jolis moments clés et des instants de vie, au prix de plus avoir les démarches différentes pour chaque personnage. Et l'ending 2, il est vraiment très cool aussi. Et je trouve que sur celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un joli jeu sur les couleurs dans l'animation des personnages. Et puis, pour l'ending 2, ils ont développé ce que j'appelle une Shakugan no Shana, où en gros, t'as souvent à la toute fin de l'épisode le début de la mélodie qui commence à se jouer pendant que l'épisode se termine, et puis là, le générique apparaît. Et c'est joué généralement au moment où t'as un petit cliffhanger qui fait son apparition, quoi.
Oui, juste avant qu'on aborde la partie narration, hein, effectivement, c'est un truc qui est pas mal utilisé à la fin de la série. D'ailleurs, même si je suis pas un grand fan des endings de Toradora, je trouve que l'utilisation sur le dernier épisode est particulièrement cool. Voilà. Donc, oui, vous l'avez deviné, on va parler de narration.
De quoi ? Ah oui, narration, oui.
Tu sais, le mot que j'ai dit il y a une seconde trente.
Du coup, en termes de narration, un truc que j'ai remarqué du coup sur la série, et je sais que c'est ton cas aussi, la série en fait est assez vite claire sur ses intentions et sur où elle nous dirige. Mais les gags et les péripéties restent quand même d'agréables surprises. Du coup, c'est sa force, hein. Elle a su éviter l'écueil qui est trop commun à beaucoup de comédies romances, d'être ultra prévisible. Ça, c'est vraiment un bon point. On va pas forcément donner des noms, mais tu parlais d'archétypes.
D'archétypes de séries, oui, il y a effectivement des séries où on a l'impression qu'on voit un épisode et on a un peu tout vu, ou alors pire que même si on donne le synopsis, en fait on a l'impression de savoir exactement comment ça va se passer, dans quel ordre les épisodes vont arriver et tout va se passer comme ce qui est prévu, et c'est assez décevant. Ça, c'est de notre faute, c'est qu'on regarde trop de séries.
Ouais, mais je crois que ton propos, c'était aussi de dire que ça arrive souvent avec les comédies romances, là en particulier.
Ah, pardon, oui, effectivement, sur les... on regarde trop de séries de comédies romantiques. Ouais.
C'était vraiment une force de la série. Je crois que tu voulais nous parler aussi des écueils des romances en particulier.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que j'en ai un tout petit peu parlé auparavant, mais il y a tout ce qui va être le personnage qui arrive de nulle part et qui va essayer de briser la romance qui naissait, ou le Deus ex machina qui va arriver, la sœur inconnue du héros,
qui revient de l'étranger,
voilà, ou l'ami d'enfance à qui il s'est promis d'être marié, enfin ce genre de truc. Et là, alors voilà, alors bon, c'est un mini spoil, mais y a pas de ça dans Toradora et ça fait plaisir.
Du coup, sur l'aspect justement lycéen, il y a un truc avec Toradora, c'est qui, donc pour le coup c'est une bonne série, hein, puisqu'on en parle dans un épisode canonique, on a tous les deux beaucoup aimé, mais il faut quand même pas être totalement hermétique au drama lycéen. Si c'est quelque chose qui vous rebute ou qui a tendance à vraiment vous énerver, malgré toutes les qualités de la série, du coup c'est vrai que ça va être difficile de vous le recommander, parce que forcément il y en a. C'est une comédie romance qui met en scène des lycéens, donc du coup vous pourrez pas y échapper.
Oui, surtout que c'est en 25 épisodes, donc forcément il y a des schémas qui vont un peu se reproduire. Voilà, avec pas mal de surréactions, on va dire. Moi, je voulais parler un peu du ton global. Je trouve que le ton de la série est plutôt versé vers l'humour, hein. Peut-être même plus sur l'humour que sur la romance, à part pour le coup sur la fin, où on va être, on va être quand même plus orienté sur les sentiments. Mais donc là, le ton humoristique, il est très lié au tempérament extrême de Taiga et aux réactions de ceux qui, entre guillemets, subissent son comportement. Donc pas mal de bagarres cartoonesques, et aussi c'est lié à certains personnages assez extravagants, hein. On parlera plus tard du personnage de Kushida ou de la maîtresse notamment. C'est un humour qui verse pas vraiment dans l'absurde, en fait, hein. C'est plutôt quelque chose de cartoonesque, et il sait faire de la place au plus dramatique sans que le ton général se soit plombé d'un coup. Je trouve que c'est assez maîtrisé en termes de tonalité et en termes de démarche globalement. Dernière chose, effectivement, il n'y a pas l'ami d'enfance à qui le héros a promis de se marier, mais il n'y a pas non plus de poitrine qui défie les lois de la gravité ou de fanservice de manière générale. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc si tu es amateur de Ecchi, tu passes ton chemin, et c'est tant mieux. Pourtant, il y a un personnage clairement qui est mannequin. On met en avant ses qualités plastiques, soyons clairs, et pourtant il n'y a pas de jeu particulier dessus, il n'y a pas d'allusion, c'est plutôt rafraîchissant.
Ouais. J'irais même que finalement les seuls passages qui pourraient être un peu liés justement à tout ce qui est le corps, en fait, c'est soit des passages touchants, soit des passages marrants, sans être des passages de mauvais goût, quoi.
Il y a rien de graveleux, donc c'est plutôt bien.
Du coup, on va passer sur les thématiques. On l'a dit, ça parle de lycéens, donc forcément on a des décisions d'ado et des réactions qui sont parfois assez immatures, hein, surtout quand on les regarde aujourd'hui avec notre regard de jeune adulte bien portant me concernant, et de vieux débris croutonesques pour ce qui est de Xavier.
Pas d'objection.
Mais du coup, putain, tu me fais rire. Même pas, il réagit, quoi, putain, ouais. Ouais, mais c'est ça, hein, je suis Taiga, t'es Ryuji, hein, c'est clair et net. Ouais, en fait, donc il y a tout autant ces réactions un petit peu immatures que de vraies prises de conscience et de responsabilité dignes d'adultes, pour le coup. Là aussi, c'est vraiment une force de la série de montrer comment les personnages peuvent évoluer et avoir différents types de réactions selon les circonstances. Je crois que niveau comme ça, comportement d'ado, t'avais des trucs à rajouter,
oui,
aussi.
Non, mais non, pas grand chose. En fait, c'est des réflexions auteur d'adolescence. C'est ça qui est rafraîchissant, en fait. Il y a peut-être des fois où on va dire que les personnages ils parlent un peu trop de ce qu'ils ressentent, Alors qu'en général, les ados ont tendance plutôt à renfermer hein, dans la vraie vie, dirons-nous. Mais je trouve qu'il y a une cohérence au niveau de l'inconséquence qu'ont les adolescents, des inquiétudes qui sont puériles, ou en tout cas de leur âge, et des gens qui cherchent. Et c'est ça que je trouve, intéressant et touchant. Sinon, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une thématique, mais en tout cas, quand je disais que c'était un drama, c'était une comédie lycéenne assez classique, on a toutes les étapes de l'animé japonais lycéen, avec le festival sportif, le festival culturel, le voyage scolaire, les épisodes à la plage, il y a même une partie où ça parle d'examen, bref, c'est un classique. Il manque juste la fête d'été avec les stands de nouilles et les filles en kimono, mais on a un peu tout ce qui est classique. Et pourtant, moi je trouve que c'est pas un problème dans ce que peut apporter la série.
Bah, je vais te dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas ce festival d'été avec les filles en kimono et les feux d'artifice. Hein.
Bon, bah...
Dragon Maid, Silent Voice, si vous m'entendez, bisous.
Oh, ça va. Bah, justement, il y a d'autres séries qui l'ont fait très bien, il n'y avait pas besoin de le rajouter.
On n'en a jamais assez. ouais, du coup, pour aller un peu plus loin sur la partie non plus adolescent, mais romance. Encore un bon point pour Toradora, la romance elle est vraiment bien plus progressive et palpable que dans beaucoup d'autres animés qui se montrent bien plus prompts à rusher la mise en place des sentiments. Sword Art Online, on vous renvoie à l'épisode 8 de notre podcast si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est bien, c'est aussi lié au format, hein, 25 épisodes, on a le temps de faire de la mise en place, on a le temps aussi même d'avoir des doutes sur ça va marcher ou pas, si oui comment, avec qui, etc. C'est vraiment cool quoi, on a vraiment une construction et c'est quelque chose qui manque dans pas mal de séries, notamment les séries plus courtes.
Ouais, c'est je suis d'accord avec ça, avec en plus des personnages qui ont tous une raison de faire ce qu'ils font. C'est pas, il y a pas juste des tokens qui sont là juste pour des archétypes, c'est assez sympa. Après, on n'échappe pas au syndrome du personnage qui ne repère pas les sentiments amoureux de ses camarades malgré des signes assez forts. Mais voilà, la série, elle est bien menée en termes d'intrigue avec des péripéties assez naturelles et même si voilà, on n'échappe pas au drama, mais on a des personnages assez bien écrits pour permettre des retournements de situation assez bien intégrés.
Ouais,
quoi.
Ouais, l'écriture des personnages est vraiment une grande force de la série. Hein. Du coup, après, en dehors des aspects romance, parce que forcément il y a des intrigues aussi autres, on a pas mal de thématiques intéressantes sur l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, voire l'ouverture aux autres. Les problèmes relationnels sont pas mal abordés, que ce soit entre amis, au sein d'un couple, voire même au sein des membres d'une famille.
Ouais, globalement, les problèmes familiaux c'est une thématique forte dans l'animé, vu que les personnages principaux vont devoir y faire face. Et c'est des situations familiales assez compliquées, mais c'est fait avec beaucoup de tact et de naturel, en mettant tant bien les points de vue de chacun et en les montrant comme tous valables.
Oui, en les mettant chacun en valeur séparément.
Ouais, et il y a pas de jugement sur ces situations familiales. Ouais. C'est vraiment intéressant.
C'est bien que tu utilises ce mot-là, parce que du coup j'en viens au dernier point qu'on voulait aborder, sur lequel encore une fois on est assez d'accord. En fait, la grande force de la série sur tous ces aspects-là, toutes ces thématiques, elle reste toujours d'une grande bienveillance sur tout ce qu'elle aborde, et elle propose assez souvent des enseignements, mais sans jamais se montrer moralisatrice. Et ça, c'était vraiment 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 très cool à regarder.
Ouais.
Du coup, vu qu'on a commencé à susurrer un petit peu à l'oreille des personnes qui nous écoutent qu'il y a de super personnages sur Toradora, il serait peut-être bien d'en dire un petit peu plus. Dans l'ensemble, ils sont quand même parfois extravagants, c'est assez rigolo, mais ils sont aussi toujours tous très touchants.
Ouais, je suis d'accord, ils ont tous des fêlures, malgré, il y en a beaucoup qui présentent des façades, mais ils ont tous à un moment donné une fêlure, et qui n'est pas juste une fêlure, tiens on va en inventer une parce qu'il faut faire un épisode de plus.
Ouais, quoi. Ouais, tu vois bien qu'elle était prévue dès le départ et elle fait partie de la construction du personnage.
Ouais, c'est un peu plus accentué chez les filles du groupe, mais j'imagine c'est un peu une manière d'écrire qui est plus naturel chez l'autrice Marie Okada.
Ouais, et du coup les personnages sont c'est assez touchant aussi, sont maladroits dans leur démarche, ce qui conduit à tous les problèmes dont on a parlé. Du coup si on discute un peu là vite fait des personnages, on va commencer par Taiga. Hein. Bon, voilà, Taiga, pour moi c'est top tier. Hein. Le personnage qui me fait beaucoup rire, qui est aussi très touchant, qui est même un peu plus complexe que, qu'il n'y paraît, justement, sur tout ce qui est les problèmes relationnels. Je pense que Taiga illustre bien, en tout cas pour moi, qu'on peut réussir un personnage de la catégorie de la tsundere, donc de la nana qui est un peu cassante, voire violente, mais qui en fait a des sentiments sincères derrière. C'est vrai que c'est un archétype qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup vu dans les animés ces dernières années, voire ces dernières décennies. Mais c'est pas parce que ça a été beaucoup utilisé qu'une série peut pas le faire avec, une certaine bienveillance et un certain tact, quoi. Et je trouve que ça a été réussi pour ce personnage. Même si je crois savoir, Xavier, que bon, Taiga, ça t'a un peu moins adhéré.
Ben, écoute, j'ai trouvé que c'était un archétype de tsundere, hein, avec une propension à taper et insulter le Ryuji, l'autre personnage principal, dès qu'elle est mal à l'aise, et un côté très autoritaire. Alors, par contre, je suis assez d'accord avec toi. C'est un personnage qui devient intéressant pour moi quand il montre ses manques affectifs, notamment, comme on en parlait avant, au niveau de la famille, mais aussi de ses sentiments en général. C'est un personnage aussi qui, mine de rien, malgré ses fêlures, sait se montrer, je dirais pas caractériel, mais
combative.
Ouais, combatif, assez sûr d'elle. Pour ébranler des convictions d'autres qui paraîtraient pourtant plus armés.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, on a mentionné Ryuji, du coup, c'est le deuxième personnage principal, hein, dans la série avec Taiga, même si techniquement c'est plus un groupe de 4-5 personnages principaux, mais il y a quand même deux qui sortent un peu plus du lot. Ryuji, il est quand même plus calme, donc en fait c'est un personnage qui s'efface un petit peu derrière Taiga, qui a tendance à s'effacer derrière, mais il est pas inintéressant, au contraire, il est assez complexe au niveau de ses sentiments. C'est par contre un personnage qui est très responsable, en fait, c'est presque l'adulte du groupe, voire même des fois il apparaît un peu plus adulte que sa mère, c'est un peu rigolo. Je pense que c'est tout à fait volontaire, de toute façon, vu comment la série évolue par la suite. C'est aussi le personnage qui sait tout faire, tu l'as dit quand on en discutait, c'est une fée du logis, quoi. Mais il sait vraiment, vraiment, vraiment tout faire, quoi. Il sait cuisiner, nettoyer, bricoler, coudre, il a aucune faille, quoi, là-dessus.
Oui, non, mais c'est un homme à marier, complètement, oui. Et c'est en gros, à part effectivement sa tête de délinquant, une chose qui s'oublie, enfin qui s'atténue assez vite au fur et à mesure de la série, surtout au fur et à mesure que ses camarades de classe le connaissent mieux, donc que se méfient moins. Donc c'est un trait sur lequel on va beaucoup moins insister. Mais ouais, sinon voilà, il a toutes les qualités d'un protagoniste classique. Il est gentil, il est patient, il est dévoué, il est logique dans ses décisions. Et en soi, je trouve que c'est un bon réceptacle pour le spectateur, vu que c'est à la base le fil rouge, vu que la première image c'est sur lui, c'est son histoire qu'on suit et pas forcément celle de Taiga. Mais je trouve qu'il n'est pas assez marquant au-delà de ses obsessions, donc le nettoyage et le rangement, par exemple.
Bon, alors du coup, il est temps d'y venir, hein. On va parler de Minorin. Je vois Xavier sourire, ça y est. Alors bon, je vais faire très très concis, hein, parce que plus on en dit, hein, moins on a de choses à dire, en fait. Minorin, c'est la drogue. La drogue, c'est Xavier, donc Minorin, c'est Xavier. Voilà, merci.
Ok, donc Minori Kushida. Bon, ah, donc c'est, voilà, pour se resituer, c'est la meilleure amie de Taiga, et comme je l'ai un peu dit dans le synopsis, ça va être donc l'objet de l'amour de Ryuji. C'est une junkie. Soyons clairs,
je vous l'avais dit.
Voilà, c'est une junkie. Elle est accro au travail, elle est accro à la positive attitude, même au détriment de sa santé physique, mentale, et voire même de son propre bonheur, malgré ce qu'elle peut laisser paraître. En fait, elle est à l'origine des phases les plus perchées de la série.
Ouais, complètement. Oui.
Que ça soit par ses exubérances en classe ou des dialogues contenant des métaphores de l'espace.
Oui, je pense qu'en fait, on peut ajouter que c'est un petit peu la Mako de Toradora, quelque part, sur ces aspects-là.
C'est étonnant que ce soit mon perso préféré, dis donc.
Ça alors. Comme quoi, je suis pas le seul à être prévisible.
C'est fort étonnant. Et ouais, donc elle a cette façade qui est ultra énergique et enjouée, mais ce que je trouve vraiment le plus intéressant dans ce personnage, c'est que elle cache une insécurité qui semble vraiment profondément ancrée en elle. Et elle a une aura finalement assez mystérieuse, parce qu'on n'en sait pas. On n'en sait pas tant que ça sur elle, ou en tout cas ça se développe vraiment petit à petit, et il faut
s'armer de patience.
Ouais, il faut s'armer de patience et de persévérance, en fait. C'est ça qui en fait aussi mon perso préféré.
Bah du coup, ça fait un peu le lien avec le personnage dont on allait parler juste après, le personnage de Ami, donc qui rejoint le groupe un petit peu après. Je l'ai trouvé assez difficile à apprécier de prime abord, même peut-être très difficile au début, mais elle devient progressivement assez intéressante, voire même très intéressante. Et elle a une certaine clairvoyance sur les relations, donc elle lève des remarques qui sont bienvenues pour le public. Je dirais même qu'au final, je l'ai beaucoup plus appréciée lors du deuxième visionnage de la série, en ayant toutes les clés, quoi.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire par là. C'est sûrement son côté justement très, je vais pas dire clairvoyant, mais on va dire un peu détaché, qui fait que oui, en tant que spectateur, on peut plus accorder d'importance à ses remarques. D'abord, en fait, donc Ami Kawashima, elle endosse le rôle de peste, hein, qui va faire dérailler le scénario. Et au début, elle me semble qu'elle est uniquement une péripétie, mais rapidement, la série, elle gratte le vernis pour montrer une personne, certes très observatrice et perspicace, habituée à naviguer dans le monde des adultes, mais qui reste une ado, hein, donc qui cache ses difficultés, qui a du mal à faire le tri entre ce dont elle a besoin et ce qu'elle a envie, ce dont elle a envie, en fait. Et c'est un aspect qu'elle partage avec Kushida, et à ce titre, je trouve que les interactions entre Kushida et Ami sont vraiment riches dans la série, et c'est ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est surtout en deuxième partie de série.
Oui, voilà, c'est là aussi, il faut être patient pour voir ça arriver, mais ça vaut le coup.
Ouais.
Ça vaut le coup. Je vais lâcher un petit mot sur la mère de Ryuji, donc Yasuko, ou Yachan avec son petit diminutif. C'est assez rigolo que ce personnage soit montré plus comme une gamine que Ryuji, en fait, qui a l'air d'être l'adulte à la maison. Si ce n'est qu'en fait elle travaille, quoi, mais dans son comportement, elle est très rigolote. Mais encore une fois, quand la série donc aborde des trucs un peu sérieux, et surtout en deuxième partie montre un petit peu des évolutions, elle a aussi droit à ces moments très touchants, donc c'est, encore une fois, c'est assez intéressant. Ils ont vraiment délaissé aucun personnage, quoi.
Même en première partie, je trouve que malgré son côté justement très enfantin, c'est le personnage qui apporte le plus de moments de réconfort de façon générale.
Oui.
Et pour le coup, quand tu vois là, en gros, la tempête de sentiments que sont la plupart des personnages, c'est assez intéressant d'avoir ça, quoi.
Ouais. Après Yasuko, Yusaku, c'est pas les mêmes, hein, je vous promets. Yusaku, c'est donc mon Kitamura, qui est le meilleur ami de Ryuji. Donc voilà, Xavier a commencé déjà à vous en parler, je pense que vous avez compris maintenant. C'est donc l'objet, comme tu dis, l'objet des sentiments de Taiga, d'Asaika Taiga. C'est la palme d'or du personnage qui est presque transparent. Alors en réalité, pour être tout à fait transparent avec vous, ce personnage, je l'ai pas tant que ça, mais c'est vrai que par rapport aux autres personnages qui sont vraiment des exemples d'écriture, il est somme toute assez banal.
Oui, c'est celui qui ressemble le plus, en fait, à un archétype. C'est un rôle de premier de la classe, le bon camarade, le délégué qui est propre sur lui, assez passif sur les événements. Il se contente en gros de discrètement guider ses amis dans la bonne direction quand il estime qu'une chose est meilleure et mieux que l'autre. C'est surtout comme ça que sont ses interactions avec Ryuji. Il est assez peu volontaire là-dessus. Il y a une exception où il va être un peu moins passif et qui va un petit peu changer son caractère et même son statut dans la série. On remarquera par exemple que dans le premier opening, il est bien présent parmi les personnages justement dont on monte la démarche. Dans le deuxième opening, il est déjà beaucoup plus en fond. Voilà, il est déjà beaucoup moins important.
Ouais, ouais, et c'est cohérent, c'est cohérent. Du coup, Bon, faut en parler, je suis désolé.
Comment ça, faut en parler? Tu veux en parler?
Non, non, il faut. Non, il faut. C'est une question de là, c'est une question de nécessité, c'est une question de besoin. Donc, je vais vous parler de Kiryuin Satsuki. Pardon, excusez-moi. De Kano, la présidente du conseil des élèves. Bon, voilà, elle est présidente du conseil des élèves déjà, et comme si c'était pas suffisant. Mais bon, elle a les cheveux d'un bleu très foncé. Un peu long, parle de façon un petit peu autoritaire. Avec des postures du genre à être en hauteur quand elle s'adresse aux autres personnages.
Ah, il lui manque que des talons, quoi.
Et puis le Bakuzan, quoi, son katana. Mais à part ça, effectivement, elle a tout. Donc ça nous a beaucoup fait rire. Parce que vraiment, on est en mode tiens, c'est bizarre. Mais pour le coup, Toradora étant sorti bien avant qu'il la kill, on pourra pas l'accuser de plagiat. Peut-être que ça a été une inspiration.
Pour info, j'avais pas fait le rapprochement avant que de le voir avec toi, en fait.
Ouais. Mais pourtant, c'est évident, quoi.
Ouais, mais j'avais pas fait le rapprochement de le voir avec toi. Je me dis, ouais, non, mais c'est toi qui as un rapport malsain avec Kill la Kill, je suis sûr.
Non, arrête de caricaturer, putain, t'étais d'accord.
Je suis complètement d'accord à 100%.
Bon, merci.
Mais quand même.
Bon, allez, du coup, une petite conclusion, un petit mot de la fin. Xavier, qu'est-ce que tu nous dirais pour résumer pour Toradora?
Ouais, Toradora, c'est vraiment une bonne série. C'est une bonne romance dans la catégorie romance scolaire. C'est parmi les meilleures que j'ai vues. Par contre, c'est une série qui ne révolutionne rien, mais qui est très solide dans tout ce qu'il entreprend. Et voilà, Toradora, c'est un bon élève.
Ouais. Ben moi, Toradora, du coup, ça a été une vraie bonne surprise. C'est vrai que je pense pas, on en a déjà discuté, reprendre un jour une claque sur la forme d'un animé tel que j'ai eu avec Kill la Kill, par exemple. Toradora m'aura pas mis une claque émotionnelle comme l'aura fait l'épisode 10 de Violet Evergarden, mais ça a été quand même une bonne petite claque dans la section des comédies romances, parce que ça fait longtemps que j'avais pas vraiment autant accroché, autant apprécié un animé dans cette catégorie, et pour le dévorer aussi vite. J'avais donc assez vite compris que ça allait me plaire, c'était rigolo, c'était touchant, etc. Puis est venu l'épisode 8, puis est venu ensuite le coup de bon, c'est pas la neige, mais tu vois le passage là, hivernal hein, qui est un peu touchant aussi. Il y a vraiment des moments qui étaient du 100% pur tarot corps concentré, et bah ouais, j'étais un peu scotché sur mon canapé. Ça a été vraiment une bonne découverte.
Oui, il y a, pour le coup, les moments clés fonctionnent bien.
Ouais.
Pour le coup, je pense qu'on va aborder d'autres séries, notamment dans des Shambara où c'est un peu moins le cas, et ce sera problématique, effectivement.
Voilà, bon, ben, c'en est fini pour cet épisode 12 du podcast Le Samouraï et la Soubrette. On vous a parlé donc de Toradora. Petite anecdote, pourquoi Toradora, c'est pour donc Tora le tigre et Dora pour Doragon le dragon. On vous laissera découvrir pourquoi, vous comprendrez assez vite d'où ça vient, même très très vite, épisode 2 si je ne dis pas de bêtises. Donc série qu'on a tous les deux apprécié, qui nous a beaucoup plu, une excellente comédie romance qui a le bon goût de ne pas tomber dans un ramassis de clichés et de prévisibilité comme c'est beaucoup trop le cas à notre goût. C'est aussi du coup notre deuxième épisode canonique enregistré avec le nouveau matériel, si je ne dis pas de bêtises.
Yep.
On n'a malheureusement pas d'extrait VF à vous laisser pour cette fois-ci, vu que la VF, il n'y en a pas. Donc, bah, je ne sais pas, Xavier, tu veux faire un bruit, un son ou un SFX de téléphone qui raccroche?
Au revoir.